de ses compatriotes en pleine bataille pour sauver ceux-là même qui se moquaient de lui et qui l'avaient battu. Le début de l'histoire de Desmondos me rappelle un petit peu le contexte de 1 Pierre. Pierre s'adresse à des juifs chrétiens dispersés dans l'Empire romain, mais à cause de leur choix, de vivre pour Dieu, à cause de ce qu'ils disent, à cause de ce qu'ils font, ils subissent de plus en plus de moqueries, d'oppressions, d'injustices. C'est le début de la persécution qui s'intensifiera encore après. Et Pierre veut encourager ces chrétiens. Comment faire ? Comment répondre dans ces situations-là ? On a vu dans la première partie de la lettre de Pierre qu'il rappelle des généralités de la vie chrétienne qui sont vraies en toutes circonstances, mais aussi vraies dans la persécution. Et là, dans la deuxième partie de sa lettre, il vient plus concrètement nous donner des conseils spécifiques, ciblés pour vivre dans l'opposition. Il y a 15 jours, Damien nous a parlé d'un premier thème. Ayez une bonne conduite. Dans l'oppression, dans la persécution, ayez une belle et bonne conduite. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir des relations renouvelées. Une soumission lucide et volontaire. Et cette soumission n'est pas synonyme de faiblesse, elle est synonyme de force. La force d'un choix délibéré pour honorer Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir un deuxième thème que je découpe en 3 partie, la première qui est une exhortation. L'exhortation à faire le bien en toutes circonstances. La deuxième partie que nous verrons ensemble, c'est que dans cette exhortation, Pierre nous donne l'exemple parfait, l'exemple même qui produit l'espérance, notre espérance. Et puis troisièmement, nous verrons un peu plus rapidement que tout ça correspond à une nouvelle perspective, une nouvelle pensée à avoir. Faire le bien. Dans les versets auparavant, quand il parle de ses relations renouvelées, on peut lire dans ses écrits de Pierre « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. » Mais Pierre nous demande d'aller un petit peu plus loin que pas seulement ne faites pas le mal, limitez vos actions pour ne pas faire le mal, mais au contraire, agissez et faites ce qui est bien. On va lire ensemble les premiers versets du texte que on aura ce matin. 1 Pierre 3, les versets 13 à 17. « D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien ? Et même s'il vous arrivait de souffrir, parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler. Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur, c'est-à-dire Christ, comme saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêt à la défendre avec humilité et respect. Et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite qui découle de votre union à Christ auront à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Faites le bien. Faites ce qui est bien, ce qui est juste. Quand on regarde les autres traductions, c'est « ayez pour modèle le bien ». Faites le bien avec zèle, c'est ce qui est dit là. Faites-le de tout votre cœur. Passionnez-vous pour ce qui est bien. Quand on lit ce passage et on se met à la place de ces chrétiens qui, parce qu'ils font le bien, souffrent, on aurait envie d'une lecture un peu superficielle de ce texte en disant, si on fait le bien, franchement, qui pourrait nous faire du mal ? Ce premier verset, sous-entendu personne. Si on a une bonne conduite, ceux qui disent du mal de nous en seront honteux et regretteront immédiatement ce qu'ils disent. Est-ce que c'est vraiment ce que Pierre dit ? Pas tout à fait, parce qu'il affirme à ses lecteurs qu'ils peuvent souffrir parce qu'ils font ce qui est juste, ce qui est bien. Finalement, faire le bien n'éloigne pas l'injustice, la persécution, la souffrance, mais nous invite à regarder en espérance. Alors qu'est-ce que Pierre veut dire quand il dit « Qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien ?» Au travers de ce groupe de versets, Pierre nous invite à faire quelque chose qui ne nous est pas naturel. Il nous demande de faire quelque chose qu'on retrouve en fait dans toute la Bible, quelque chose que beaucoup d'autres auteurs nous invitent à faire, c'est poser un autre regard sur la situation. Élargir notre champ de vision, prendre de la hauteur. D'ailleurs, s'approcher de Dieu aide à prendre de la hauteur. Ne pas regarder les circonstances avec notre propre regard. On est incapable de voir la situation dans sa globalité, dans son évolution, mais avec le regard de Dieu. Et dans ce premier verset, c'est une double question qui est posée. Finalement, quel mal peut vous arriver ? Quel malheur peut-il vous arriver ? Et il répond, même si vous souffrez, vous seriez heureux. En disant ça, Pierre n'est pas en train de minimiser la souffrance, en disant c'est pas grave. Mais il dit quelque chose de très puissant. Parce que vous êtes en Dieu, parce que vous cherchez à faire le bien, alors, attaché à ça, il y a un bonheur et une joie qui va dépasser les souffrances que vous pouvez endurer à cause de votre attachement à Dieu. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose même d'ahurissant. Et quand on pense à ce qu'il est en train de dire, parce qu'il n'est pas le seul à le dire, Pierre, on pense aussi peut-être à ces paroles de Jésus dans le Sermon sur la montagne, qui a dit « Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront ou vous persécuteront lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend au ciel. » Vous serez comme les prophètes d'autrefois qui ont été persécutés avant vous de la même manière. On peut penser aussi dans Actes aux apôtres qui sont convoqués devant les responsables religieux, qui les font battre, qui leur interdisent de parler de la part de Jésus. Et on peut lire au chapitre 5, verset 41, les apôtres quittèrent la salle du conseil tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Il y a quelque chose d'incroyable là. Il y a un autre regard à poser sur cette situation. Le vrai mal, vous en avez été délivré. On peut vous faire mal, mais si vous vous engagez à faire ce qui est juste, si vous vous engagez à faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, il y a une joie qui est liée à ça, qui va dépasser la souffrance et l'oppression que vous pouvez rencontrer. La deuxième question que pose ce premier verset, c'est qui ? Finalement, qui peut vraiment vous faire du mal ? Les hommes ? Mais ne les craignez pas. Cette phrase, « Ne craignez pas les hommes, ne vous laissez pas troubler », est tirée d'Ésaïe 8, les versets 12 et 13. Dieu révèle à Ésaïe qu'il y a une énorme menace qui pèse sur le pays de Juda. Le roi de l'empire assyrien va envahir, va submerger Juda. Et c'est effectivement ce qui est arrivé. Tout Juda a été envahi. La capitale Jérusalem a été assiégée. Mais Dieu a délivré Jérusalem et les Judéens par un miracle extraordinaire. Je vous laisserai relire Ésaïe, si vous voulez le voir plus en détail. Et il dit à Ésaïe, ne craignez pas ce que les hommes craignent. Ne redoutez pas comme eux redoutent. C'est le Seigneur que vous devez craindre et respecter. Parce que c'est lui qui dirige toutes choses. Et il me semble que Pierre, là, ouvre au passage une petite parenthèse. Alors, on va faire une petite parenthèse. Bien sûr, ce nouveau regard que Pierre nous encourage à avoir sur cette situation difficile, cette situation de souffrance de ses lecteurs, est lié à l'espérance. Et c'est l'espérance que Pierre nous invite à défendre, ou plus justement à justifier. Une justification humble et respectueuse. On utilise souvent ce verset pour parler de ce qu'on appelle l'apologétique, c'est-à-dire l'art de montrer que la foi est raisonnable. Et dans cet art de montrer que la foi est raisonnable et pas quelque chose de complètement farfelu, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que ce n'est pas la peine d'assommer la personne en face de vous à coups d'arguments ou de versets bibliques, mais de travailler dans le respect et l'humilité. Mais je trouve que c'est très intéressant de voir que c'est dans le contexte de l'oppression, de la souffrance et de la persécution que Pierre encourage à l'apologétique. Comme pour nous dire, c'est pas forcément dans nos succès, c'est pas forcément dans nos victoires, dans notre force ou dans notre puissance que ce message de l'espérance va toucher le plus. C'est peut-être plus souvent dans la manière dont on vit la souffrance. C'est peut-être plus souvent dans la manière dont on vit notre attachement à Dieu, malgré l'opposition, qui parle le plus. Alors soyez prêts à parler de votre espérance, avec humilité et douceur. Faites du bien, faites le bien. Faites ce qui est juste, alors que vous êtes dans la souffrance. Est-ce que c'est possible ? Comment on fait pour avoir ce nouveau regard, pour prendre de la hauteur ? Comment ne pas craindre, ne pas être troublé ? Mais est-ce que finalement Dieu ne demande pas quelque chose d'un peu trop difficile ? Est-ce que Dieu peut vraiment comprendre la situation dans laquelle on est ? Parce que si on s'arrête 2 minutes, Dieu est Dieu. Ça veut dire que Dieu, il est absolu, il est suprêmement élevé au-dessus de tout. Il dépasse tout ce qu'on peut comprendre, concevoir. Par sa parole, juste par sa parole, il crée tout l'univers. Il dit et la chose arrive. Les versets de la Bible disent que ce qu'il fait dépasse notre intelligence, que ses projets ne sont pas nos projets, que ses plans ne sont pas nos plans, parce que c'est inaccessible pour nous. Et même sans parler de la manière dont il agit encore aujourd'hui, si on regarde juste ce qu'il a déjà fait, c'est-à-dire sa création, mais ça nous dépasse complètement. L'année dernière, à Nice, il y avait une conférence des Nations Unies sur l'océan. Et il y a un des journaux qui a titré « Notre connaissance des fonds marins est presque nulle ». On parle de notre planète. On parle de choses qu'on connaît. En fait, on ne les connaît pas. J'aime bien les étoiles, l'univers. Si on regarde le ciel, mais on ne peut pas mesurer la taille de l'univers, on ne peut même pas voir la majorité de l'univers. Ça nous est inaccessible. On est tellement loin d'en comprendre tous les mécanismes. On parle aujourd'hui de la matière noire ou de l'énergie sombre. C'est 95% de la masse et de l'énergie de l'univers. C'est ce qu'on ne voit pas et c'est ce qu'on ne comprend pas. Comment on peut saisir Dieu ? On ne comprend même pas ce qu'il a fait. Il est tellement au-dessus de nous. Dans les psaumes, on peut lire « L'Éternel est grand. Notre Seigneur surpasse tous les dieux. L'Éternel fait ce qu'il veut sur la terre, au ciel, dans les mers, dans les abîmes. Qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel ? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu ? L'Éternel, Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi ? C'est toi qui maîtrises l'orgueil des mers. Quand les vagues se soulèvent, c'est toi qui les calmes. C'est à toi qu'appartient le ciel, la terre, c'est toi qui as fondé le monde, tout ce qu'il contient. Mais Dieu est tellement incomparable. Dieu est si grand qu'on ne pourra jamais se mettre à sa hauteur et le comprendre. Et comment lui, il peut nous comprendre ? Nous qui sommes si insignifiants. Comment est-ce qu'il peut comprendre notre faiblesse ? Comment pour ces chrétiens qui vivent des choses tellement difficiles ? Est-ce que Dieu n'est pas trop loin ? Est-ce que Dieu n'attend pas des choses qui nous semblent irréalistes ? Des choses qui sont trop grandes pour nous ? Alors continuons notre lecture. Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. C'est aussi par cet Esprit qu'il a proclamé sa victoire aux esprits célestes en prison. Ceux qui autrefois s'étaient montrés rebelles, alors que Dieu faisait preuve de patience à l'époque où Noé construisait le bateau. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvées à travers l'eau. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu, avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ, qui, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu et à qui les anges, les autorités, les puissances célestes sont soumis. Pierre vient nous rappeler quelque chose de fondamental. Dieu n'est pas un Dieu qui ne comprendrait pas la souffrance. Christ a souffert. Trois fois, il dit « Christ a souffert, Christ est mort ». Et quand on revient sur ce temps qu'on appelle la passion, ce que Jésus a vécu avant et au moment de sa mort, mais oui, c'était la souffrance. La souffrance physique d'être battu, d'être maltraité, d'être torturé. La souffrance d'avoir été trahi par un de ses amis les plus intimes. La souffrance d'avoir été abandonné de tous. Il a connu l'angoisse. Il a prié pour que cette épreuve lui soit épargnée et il n'a pas été exaucé. Et il a connu la souffrance ultime, la souffrance indescriptible, celle d'avoir été séparé du Père Céleste. Oui, Jésus a connu la souffrance. Et Pierre s'adresse à ses lecteurs pour leur dire, mais l'opposition, le rejet, la haine que le monde peut avoir envers vous, mais Christ la connaît, Christ l'a vécu. Vous avez choisi de faire ce qui est bien et vous en souffrez, c'est injuste. Christ a subi l'injustice. Il a choisi de vivre quelque chose de profondément injuste. Parce que s'il a souffert, s'il est mort, c'est pour les péchés, lui qui n'avait jamais péché. Ce que produit le péché, ce à quoi il conduit, c'est quoi ? C'est la mort. Romains nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort qu'il ne méritait pas. Eh bien, il la prend, il la subit. Pierre va même encore plus loin pour dire il a été condamné et mis à mort alors qu'il était innocent, qu'il ne le méritait pas, mais il a été mis à mort pour des gens coupables. Pour des hommes et des femmes qui méritaient cette condamnation. C'est-à-dire pour nous. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Dire que Dieu va juger le péché et les pécheurs, dire que nous sommes condamnés, que nous méritons la mort, c'est quelque chose un petit peu de difficile à entendre, n'est-ce pas ? Qui peut peut-être nous sembler un peu exagéré. Est-ce que Dieu ne voit pas quand même qu'on fait des efforts ? Qu'on n'est quand même pas pire que beaucoup d'autres ? Pourquoi nous condamner ? On ne réalise pas qu'on est peut-être cette fameuse grenouille dans la casserole. Vous savez, on ne va pas plonger dans l'eau bouillante. On ne va pas se livrer aux pires atrocités que le mal peut produire. Mais nous sommes dans cette eau qui se réchauffe petit à petit. Nous sommes dans ce chemin qui ne conduit pas à la vie. Et on n'a pas toujours envie de s'en rendre compte. Et si on ne fait rien, à la fin, la grenouille finit par être cuite. Dieu est le Dieu de la vie. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et... » La vie ? Il a dit « Je suis la vie ». Dans Genèse, Dieu n'est pas décrit simplement comme le créateur de toutes choses, il est aussi décrit comme celui qui souffle, qui insuffle la vie, qui donne la vie à l'humanité. Quand il fait alliance avec son peuple, il les place devant leur liberté. Il leur dit « Vous pouvez me choisir ou vous pouvez me rejeter, mais choisissez la vie !» Parce que la vie n'est qu'en Dieu. La vie n'existe pas en dehors de Dieu. Et faire le choix, comme Adam et Ève, de ne pas faire confiance à Dieu. Faire le choix de vouloir être soi-même Dieu pour choisir soi-même ce qui est bien, ce qui est mal. Faire le choix de se séparer de Dieu nous condamne automatiquement, parce que ce chemin ne conduit qu'à la mort. Au travers de ce que Pierre est en train de nous dire, il n'est pas simplement en train de nous donner un exemple pour nous dire et nous encourager à faire le bien malgré la souffrance. Il est aussi en train de parler de ce que Christ a fait, de cette œuvre qu'on appelle rédemptrice, de restauration, de salut. Pourquoi est-ce que Jésus, il a choisi de vivre cette injustice, cette souffrance et cette mort ? Pour une raison, nous conduire à Dieu, nous ramener sur le chemin de la vie. Et est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça marche ? Ça marche parce que Pierre nous rappelle qu'il a été ramené à la vie, qu'il est ressuscité, C'est ce que nous fêtons aujourd'hui. C'est l'événement le plus merveilleux, le plus grandiose de toute l'histoire. S'il y a un seul événement à se rappeler de l'histoire de l'univers, c'est que Christ est ressuscité. C'est que la mort a été vaincue. Paul nous dit dans 1 Corinthiens, la victoire totale sur la mort a été remportée. Alors oui, ce qu'il a fait a marché. Oui, ce qu'il a fait peut nous sauver. Oui, il peut nous donner la vie. Il l'a fait une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin de le refaire, il n'y a pas besoin d'en faire plus. On va faire une pause dans ce message. Et on va arrêter là. Juste pour qu'on puisse prendre le temps de réfléchir et de mesurer la puissance de ce message de Pâques. Christ est mort pour nous et il est ressuscité. Habituellement, on fait le temps de Sainte-Cène après. On va le faire maintenant. Je voudrais vous inviter à prier, que ce soit dans votre tête ou à haute voix, mais juste pour louer Dieu, pour le remercier de l'œuvre de Christ. Pour le remercier de cet amour qu'il a pour vous. Pour admirer cette victoire sur la mort, cette espérance que nous avons en lui. Ce temps de scène s'adresse à ceux qui reconnaissent en Christ leur Sauveur, leur Seigneur. Pour ceux qui peuvent dire oui, je m'accroche à ce qu'il a fait, je crois à ce qu'il a fait et je le suis. Je vais inviter Florent à venir avec moi pour distribuer les éléments. Pendant que les éléments circulent, ben prenez le temps d'adorer, de prier, comme je le disais intérieurement, à haute voix. Remerciez Jésus pour ce qu'il a fait.
Parce que tu as été obéissant jusque dans la mort, toi qui étais parfait. Et merci d'être ressuscité, d'être vivant pour l'éternité.
Merci d'avoir subi le châtiment qui nous était destiné. Merci pour cette croix. Merci Seigneur. Qui vivons-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et tu es aussi le chemin, la vérité. Je suis émerveillé par ta grande sagesse. La sagesse de ton salut, la sagesse dans la création. Comme moi, tu es un Dieu qui nous aime.
Et Seigneur, par ta mort, nous avons la vie. Et Seigneur, nous sommes émerveillés par ton amour, émerveillés par la folie de ton plan. Mais Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la vie qui se développe en nous, merci pour la vie que nous avons en toi chaque jour. Merci pour l'espérance que tu nous donnes. Ouais, Seigneur, nous te rendons gloire, nous t'adorons et te louons. Parce que ce que tu fais est véritablement merveilleux. Amen. Si on reprend notre texte et notre lecture, on tombe sur ces versets 19 et 20. Un petit peu mystérieux. Ce texte a alimenté et alimente encore beaucoup de discussions parmi de nombreux théologiens. Et ce qu'on lit chez la plupart, c'est qu'il est vraiment difficile de tirer une explication claire de ce que Pierre a voulu dire. Comment comprendre ces esprits rebelles en prison ? Historiquement, dans les premiers siècles, et on le retrouve dans certaines proclamations de foi telles que le Credo des apôtres, la compréhension de ce texte est que Jésus serait descendu en enfer pour prêcher aux justes de l'Ancienne Alliance, pour leur prêcher la bonne nouvelle. Pour d'autres, ce texte ferait référence pas au fait qu'il aurait seulement prêché, mais qu'il les aurait libérés des chaînes de l'enfer. Pour saint Augustin, il s'agit d'une prédication que Noé aurait eue aux hommes pécheurs de son époque, où il leur aurait parlé de Christ dans sa préexistence. Pour d'autres encore, ces esprits rebelles seraient des anges déchus. Qui sont ces esprits rebelles ? Et en quoi consiste cette proclamation ? C'est la deuxième partie du débat. La proclamation de cette victoire, est-ce qu'il faut la comprendre dans son sens le plus simple, c'est-à-dire l'affirmation d'une vérité ? Ou faut-il aller encore un peu plus loin et voir une invitation au salut ? Une fois qu'on a dit tout ça, on peut lire beaucoup de commentaires de beaucoup de théologiens différents et finalement arriver à la conclusion que ça serait un peu hasardeux d'avoir une conviction trop forte sur une pensée ou même une doctrine qui reposerait sur bien peu de textes dans la Bible. Et je vous invite à accepter qu'il y a parfois certains mystères ou certains passages difficiles dans la Bible et que ce n'est pas grave si on ne les résout pas. ça ne veut pas dire qu'on n'en tire rien. On peut quand même retenir que Pierre parle de proclamation, que Pierre parle d'esprit céleste et que Pierre parle d'autrefois. Ce qui nous invite à comprendre que par sa mort et sa résurrection, ce que Jésus a fait est tellement important et grandiose que ça a conduit à une proclamation qui dépasse le ici et le maintenant. Il y a 2000 ans, Jésus est mort et ressuscité à Jérusalem. Et au travers de ce que nous dit Pierre, il y a quelque chose de local, de temporel, qui a en réalité une répercussion céleste, spirituelle, et qui dépasse juste ce temps-là. Quand je vous dis que c'est l'événement le plus grand de l'histoire, alors oui, on peut en voir quelques éléments dans ce que Pierre nous dit. Il enchaîne avec ce récit de Noé pour nous renvoyer à la nécessité du salut, à l'invitation au baptême, symbole de notre engagement avec Dieu, pas d'un engagement extérieur superficiel, mais d'un engagement entier, véritable, profond, dans le désir d'une conscience pure. Ce salut nécessaire, ce salut essentiel s'appuie sur la mort et la résurrection de Jésus, mais il a aussi comme perspective quelque chose d'immensément glorieux. Jésus vivant, Jésus honoré, Jésus glorifié. Et Pierre nous rappelle une triple réalité. Jésus est monté au ciel, il est maintenant vivant. Jésus siège à la droite de Dieu, ça veut dire qu'il est sur une place d'honneur et de pouvoir. Jésus règne et domine sur les autorités et les puissances célestes. Il y a un principe biblique fondamental. Faire le bien, faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, s'engager avec Dieu, c'est un chemin de renoncement, un chemin de mort à soi pour véritablement suivre la volonté de Dieu. Et ce n'est pas facile, ça mène à certaines souffrances, mais ultimement, c'est ce qui conduit à la victoire. C'est ce qui mène à la vraie vie. Et c'est ce que Dieu honorera de sa gloire. Jésus non seulement a incarné pleinement ce principe, il en est l'exemple parfait, mais surtout, il rend possible ce principe. Et c'est ce que Pierre nous rappelle dans les versets suivants. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de la même pensée. En effet, celui qui a souffert dans son corps a rompu avec le péché afin de ne plus vivre le temps qui lui reste à passer dans son corps, selon les passions humaines, mais selon la volonté de Dieu. C'est bien assez, en effet, d'avoir accompli dans le passé la volonté des païens en vous adonnant à la débauche, aux passions mauvaises, à l'ivrognerie, aux orgies, aux beuveries et aux dérèglements associés au culte idolâtre. Maintenant, il trouve étrange que vous ne vous précipitiez plus, avec eux dans la même vie de débauche. Et ils se répandent en calomnie sur vous. Ils en rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela d'ailleurs que la bonne nouvelle a aussi été annoncée à ceux qui maintenant sont morts, afin qu'après avoir subi la même condamnation que tous les hommes dans leur corps, ils vivent selon l'Esprit. Oui, Jésus a souffert. Jésus a souffert, regardez ce que ça a permis. Regardez ce que ça a produit. Alors, armez-vous de cette pensée. Armez-vous, d'autres traductions disent, de cette perspective. Armez-vous de ce nouveau regard. Ça veut dire que ce n'est pas juste adopter cette pensée sympathique. Non, s'il dit armez-vous, c'est que c'est un outil puissant pour tenir dans la souffrance et dans l'adversité. Oui, suivre Dieu, s'engager avec Dieu pour faire le bien peut comporter son lot de difficultés et de souffrances. Mais ces souffrances que connaissent les lecteurs de Pierre viennent du fait que vous avez rompu avec le péché. Ces souffrances viennent du fait que vous avez choisi de vous engager avec Dieu pour faire le bien. Ces souffrances viennent du fait que vous n'êtes plus de ce monde. Alors, armez-vous de cette perspective, armez-vous de cette façon de voir les choses. Jésus a subi ses souffrances et regardez ce qu'il a rendu possible. Parce que maintenant il règne, maintenant il est ressuscité, il est honoré, glorifié. Il a vaincu la mort et offre sa vie. Et c'est avec cette dernière pensée que Pierre nous laisse. Dieu viendra juger les morts et les vivants. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle qui a été entendue par ceux qui sont maintenant morts. Il y a une bonne nouvelle qui fait que malgré la mort de ces personnes dans leur cœur, dans leur corps, pardon, maintenant ils vivent. Ils vivent selon Dieu, par l'Esprit. Pour conclure ce texte de 1 Pierre, on a vu que Pierre nous donnait une exhortation à faire le bien, à faire ce qui est juste, même si cela conduit à la souffrance. Il nous a donné l'exemple parfait de Jésus, qui a fait cela et qui a rendu possible cela, qui est maintenant notre espérance. Il nous invite à avoir cette nouvelle perspective, ce nouveau regard, cette nouvelle pensée, axée sur Dieu. Qu'est-ce qu'on tire d'un passage comme celui-ci? Je vous propose 3 applications. Et cette question, avec quoi vas-tu repartir à la fin de ce culte? Par rapport à ce qu'on a vécu, chanté dans ce temps de louange, par rapport à ce qu'on a pu dire au travers de ce texte de Pierre. Vas-tu repartir avec cette exhortation à persévérer? Persévère dans la passion de faire ce qui est bien et de ce qui est juste aux yeux de Dieu. Malgré la difficulté, malgré la souffrance qu'un tel engagement peut produire, et les lecteurs de Pierre en savaient quelque chose. Vas-tu partir avec ce rappel de cette perspective, ce nouveau regard à poser? Regarde ce que Dieu a fait et ce qu'il continue de faire. Peut-être tu peux repartir aussi avec cette interpellation. Et toi? Si ce n'est pas déjà ton cas aujourd'hui, est-ce que tu veux t'engager avec Dieu et recevoir cette nouvelle vie? Cette vie que Dieu veut t'offrir? Cette vie que même la mort ne peut pas détruire? Alors, soyons clairs, cet engagement n'est pas forcément facile, les lecteurs de Pierre en savent quelque chose. Mais s'ils sont restés fidèles dans l'adversité, s'ils sont restés fidèles dans la persécution, c'est parce que suivre Dieu est tellement plus important pour eux. Suivre Dieu, c'est recevoir la vie, la vraie vie. Cette exhortation à persévérer dans ce qui est bien, cette interpellation à adopter cet autre regard, cette nouvelle perspective, cette interpellation à suivre Dieu. Tout cela repose sur une seule chose, la réalité joyeuse, glorieuse de Pâques. Christ a souffert la mort pour nos péchés, mais il est ressuscité. Et maintenant il règne et donne la vie à tous ceux qui veulent le suivre. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, on ne mesure pas la puissance de ce que tu as fait, la gloire de ce que tu as fait. Le fait que tu sois descendu du ciel en simple homme pour connaître nos limites, notre humanité, pour connaître la souffrance et l'injustice, pour passer par la mort, c'est quelque chose qui nous dépasse. Mais Seigneur, nous sommes émerveillés de voir ce que tu as fait. Nous sommes réjouis de voir que tu as vaincu la mort, que tu es ressuscité et que maintenant tu nous offres la vie, que tu règnes. Et Seigneur, nous voulons marcher à ta suite. Je te prie que ça puisse être chaque jour cette réalité dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui sont là aujourd'hui. Que cette semaine, nous puissions nous rappeler une fois de plus cet amour merveilleux que tu as pour nous, cette espérance joyeuse que nous avons en toi et qui dépasse les souffrances et les difficultés que nous pouvons vivre ici-bas, aujourd'hui. Nous regardons à toi, nous regardons à ta souveraineté, nous regardons à la gloire de ton règne et nous sommes dans l'attente de ton retour, Seigneur. Gloire te soit rendue. Amen. Notre culte se termine. Je voulais